Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Un couvre-feu dès 18h, nouvelle arme du gouvernement pour essayer de juguler l'épidémie.
Olivier Véran ne souhaite pas reconfiner, pas pour l'instant. Une vingtaine de départements sont concernés par les nouvelles restrictions. Il n'y aura aucune tolérance demain soir pour ceux qui tenteraient de braver les consignes. 100 000 policiers et gendarmes prévus sur le terrain. À suivre également les vacances à la montagne. C'est dur pour certaines stations. Les loueurs de ski craignent de ne jamais rouvrir. Et puis la colère de Donald Trump, peut-être l'une de ses dernières, contre la presse féminine cette fois, dont les couvertures boudraient selon lui sa très jolie femme.
RTL Matin.
À 48 heures d'un réveillon qui s'annonce vraiment pas comme les autres, le ministre de l'Intérieur demande au préfet des mesures fortes avec ce chiffre qui à lui seul ce matin illustre l'ampleur du dispositif. 100 000 policiers et gendarmes présents sur tout le territoire, d'abord pour faire respecter le couvre-feu, mais aussi pour éviter tout débordement lié, c'est souvent le cas, au soir du 31. Bonjour Thomas Proutot, il faut s'attendre à des actions ciblées, quelles sont-elles ?
Eh bien, deux priorités sont données aux forces de l'ordre pour ce 31. D'abord, les fêtes dites clandestines, organisées dans des lieux publics ou dans des établissements privés. Cela concerne autant les bars, salles ou restaurants qui auraient décidé de passer outre que des réveillons rêve-parties, par exemple, organisés à la campagne. Gendarmes et policiers sont sommés d'y mettre fin et d'interpeller les organisateurs dès qu'ils en ont connaissance. Deuxième priorité, les traditionnelles violences urbaines du Nouvel An. Des effectifs seront déployés dès ce soir dans les quartiers habituellement touchés. Pour ceux qui auront simplement, si l'on peut dire, décidé de passer le réveillon entre amis, malgré le couvre-feu, il n'y aura pas bien sûr de barrage généralisé sur les routes et les autoroutes, mais aucune tolérance pour ceux qui se font prendre, prévient le ministère de l'Intérieur. Ce sera 135 euros par personne, sans compter les traditionnels contrôles d'alcoolémie.
Vous nous rappelez, Thomas, la règle concernant les soirées à domicile. Alors, ce n'est pas conseillé, mais ce n'est pas interdit non plus.
En effet, gendarmes et policiers n'ont en théorie pas le droit d'intervenir chez vous pour une soirée privée. Si vos invités repartent à 6h du matin, ils ne risquent donc rien. Mais attention, le tapage nocturne reste bien sûr une infraction. Et puis surtout, les autorités sanitaires le répètent depuis des mois, les fêtes en milieu fermé sont des bombes épidémiques capables de contaminer des dizaines de personnes à la fois.
Merci Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL.
Il n'y aura donc pas de reconfinement, en tout cas pas dans l'immédiat, et ce malgré les dernières mises en garde du Conseil scientifique.
Pour qui une reprise incontrôlée, je cite, de l'épidémie apparaît désormais probable. Certains élus locaux réclamaient pourtant depuis plusieurs jours un reconfinement immédiat. Ce n'est pas l'option retenue par Olivier Véran qui opte lui pour un couvre-feu renforcé dès 18h dans les départements les plus touchés, essentiellement dans l'Est et le Sud-Est. La mesure entrera en vigueur à partir de samedi. Dimitri Ramelot, vous êtes à Nancy pour RTL. Une fin de journée à 18h en pratique, ça s'annonce un peu compliqué même si tout le monde semble vouloir faire preuve de bonne volonté.
Oui, ce papa de 3 enfants sorti de chez lui peu après 7h pour aller au travail adaptera sans souci le rythme de ses journées pour le bien de tous.
Je faisais la plupart de mes courses en fin de journée, entre 18h et 20h. Donc je vais être obligé de les avancer entre midi et 2 pour pouvoir respecter ce nouveau couvre-feu. Vu l'ampleur du problème, je suis prêt à respecter tous les règlements que nous imposera le gouvernement pour essayer de vaincre cette pandémie.
Problème en revanche pour Aline, maman de Léo, un an très lasse de la situation. Cette trentenaire n'est pas sûre de pouvoir se plier aux nouvelles règles et prédit même des situations tendues en fin de journée.
Très pénible parce qu'on sort du travail à 18h, il faut aller chercher les enfants chez la nourrice après. On va se retrouver dans les embouteillages parce que tout le monde va devoir rentrer à 18h. Bref, c'est n'importe quoi, je suis contre.
Pourtant, elle admet qu'elle fera le maximum pour être le moins longtemps possible à l'extérieur et se dit volontaire de la première heure pour être vaccinée.
Dimitri Ramelot à Nancy pour RTL. Hier, Santé publique France a dénombré encore près de 400 décès liés au Covid et une hausse des hospitalisations. Dans ce contexte, il apparaît difficilement concevable à ce stade de lever les contraintes. Le 7 janvier, les mots d'Olivier Véran sont pesés, mais ils n'incitent guère à l'optimisme. On imagine mal dans ces conditions une réouverture des cinémas, des théâtres et des musées. Quant aux bars et aux restaurants, on ose pour l'instant l'imaginer. Il y a pourtant des raisons d'espérer, estime Pascal Crépet, pour cet épidémiologiste. Le couvre-feu a de réels effets sur la baisse des contaminations.
Ce qui est certain, c'est que les couvre-feux, tels qu'ils ont été mis en place en octobre, ont montré une forme d'efficacité assez importante, et plus importante que ce qui était espéré. Renforcer ce couvre-feu et le mettre à 18h, a priori, ça devrait là encore renforcer l'efficacité de ces couvre-feux. Et donc, ça pourrait suffire à stabiliser, voire à faire décroître l'épidémie, si celle-ci augmente effectivement. D'autant plus qu'il ne faudrait pas pas grand-chose pour entamer une phase décroissante de l'épidémie.
En propos recueilli par Agathe Landais.
RTL 8h05, alors après 2 années de répit, le virus de la grippe aviaire, je dis bien grippe aviaire, fait à nouveau des ravages dans le sud-ouest.
Hein. Très contagieux pour les volailles et spécialement pour les canards. Alors afin de contenir la propagation, les autorités viennent d'élargir le périmètre des communes touchées dans les Pyrénées-Atlantiques et surtout dans les Landes, un département où est produit 40% du foie gras. Une centaine de communes sont désormais concernées par un abattage systématique des canards.
Une pause et direction la montagne. Les Pyrénées, où les professionnels, il fallait s'y attendre, vivent un début de saison extrêmement compliqué. Pourtant, les touristes sont là. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin. Toujours avec vous. RTL Matin.
RTL, il est 8h07, la suite du journal de Dominique Tenza. Partons, comme promis, dans les Pyrénées, à 1h30 de Toulouse, la charmante commune de Bagnères-de-Luchon.
Station thermale et station de ski à la fois. Il y a du monde habituellement en cette saison pour faire la queue aux tire-fesses, mais vous le savez, cette année, les remontées mécaniques sont à l'arrêt et quand les télécabines vous emmènent au sommet, c'est pour redescendre à pied. Pourtant, les touristes sont là, entassés parfois sur des luges, raquettes ou ski de fond au pied, mais cela ne suffit pas malheureusement à sauver l'économie locale. Reportage de Pierre Collat.
Les télécabines qui relient Bagnères-de-Luchon à la station de Super Bagnères tournent à plein régime, mais arrivé en haut, tout est fermé.
D'habitude, on fait du ski, ouais.
Eric est venu avec toute la famille. Il observe sa petite fille sur sa luge au milieu de dizaines d'autres enfants.
Là, on est venu parce qu'il faisait beau et on s'est dit, on vient quand même, même si on fait pas de ski, on fera faire de la luge aux petits. Voilà. La neige est belle, c'est dommage, mais bon, on en profitera, j'espère, en janvier, quoi, si on peut.
Yann, lui, s'est essayé au ski de randonnée, activité autorisée, mais il abandonne déjà.
Ah oui, mais c'est la première fois, mais la dernière, j'ai peur plus.
Malgré une certaine affluence en altitude, en bas, dans la ville de Luchon, ce n'est pas la foule des grands jours.
Il y a quand même moins de demandes.
Les restaurants sont fermés, la vente à emporter fonctionne timidement et évidemment les grands perdants ce sont les loueurs de ski. Plusieurs magasins sont carrément restés fermés. Thomas lui a choisi d'ouvrir sa boutique Snowpark mais c'est très très calme.
Une activité fortement réduite, il y a simplement on arrive à louer des raquettes uniquement, un peu de matériel de ski de fond.
Et... D'habitude le ski alpin ça représente combien de pourcentage de vos locations?
Bon, ça représente quasiment 98% j'allais dire. Ouais c'est quasiment tout, donc là c'est quasiment, on fait quasiment rien quoi.
C'est le département de Haute-Garonne qui gère le domaine ici à Super Bagnères. Les saisonniers sont tous là. Tout est prêt pour une éventuelle ouverture totale début janvier.
Un reportage signé Pierre Collat. L'accord post-Brexit conclu entre Bruxelles et Londres sera signé aujourd'hui par les dirigeants de l'Union européenne avant d'être acheminé au Royaume-Uni pour y être ratifié par le Premier ministre Boris Johnson. Entrée en vigueur demain soir à minuit. Vendredi matin, Londres sera officiellement donc séparé du reste de l'Union. Le Brexit entrera en vigueur et chaque matin, toute cette semaine, nous revenons sur les conséquences de cette rupture et on s'intéresse on sort des étudiants ce matin. Bonjour Marie Billon.
Bonjour.
Fini Erasmus au Royaume-Uni avec une conséquence alors là très concrète sur le portefeuille.
À partir du 1er janvier, les étudiants français et européens en général entrent dans la catégorie internationale. Ça veut dire que les frais universitaires des nouveaux entrants explosent. Par exemple, pour un bachelor, l'équivalent de la licence, en biologie à l'université d'Oxford, un Anglais qui s'inscrit à la rentrée 2021 paiera 10 000 euros par an, tandis qu'un Français devra s'acquitter de plus de 41 000 euros annuels. Pour les Européens, par contre, qui ont déjà commencé leur cursus, ils sont par exemple en première année de biologie à Oxford, ils bénéficieront des frais des locaux jusqu'à la fin de leur licence. S'ils veulent ensuite faire un master, là ce sera très cher. Jusque-là, l'autre solution pour étudier au Royaume-Uni était de choisir Erasmus. Mais Londres a décidé d'en sortir pour le remplacer dès septembre 2021 par le Turing Programme. Il est présenté comme un programme d'échange, mais rien n'a pour l'instant été révélé sur le nombre ou les conditions d'accueil des jeunes Européens dans les universités d'outre-Manche.
Merci Marie Billon. Et puis le Royaume-Uni qui vient à l'instant de valider le vaccin AstraZeneca développé par l'université d'Oxford après avoir, il y a quelques semaines, donné son feu vert au vaccin Pfizer-BioNTech.
L'Argentine est-elle sur le point de légaliser l'avortement?
Les sénateurs débattent depuis hier d'une loi qui pourrait changer la vie de millions de femmes dans ce pays très divisé sur la question. Rassemblement impressionnant. Vous l'entendez à Buenos Aires, des dizaines de milliers d'Argentins rassemblés, partisans de cette loi sur l'IVG qui pourrait faire de l'Argentine le premier grand pays d'Amérique latine donc à légaliser l'avortement.
Il est 8h10, un coup de tolère pour terminer, un coup de colère.
Et de tonnerre.
Et de tonnerre, par ailleurs, pour terminer, celui de Donald Trump. On en a, disons, l'habitude, mais pas forcément dans ce registre.
Et cette fois, c'est pour défendre sa femme, Melania, ancienne top modèle, qui, selon lui, n'a pas été traitée à sa juste valeur durant le mandat écoulé. Pour le président américain, sa jolie compagne aurait sans doute mérité davantage d'égards de la part des magazines de mode. Aux États-Unis, Lionel Gendron.
Dans le flot, son tweet était passé inaperçu. Entre un joyeux Noël et un message rageur contre le Congrès, Donald Trump traitait les journaux de fake news, une habitude, mais cette fois il visait les magazines de mode. S'appuyant sur un article de Breitbart News, le site d'extrême droite note « Melania Trump, ancien top modèle, n'a fait aucune une de magazines de mode pendant le mandat de son mari ». En comparaison, Michelle Obama en a fait 12 en deux mandats. La preuve, selon les partisans de Donald Trump, du traitement partial des médias. Anna Wintour, l'influente rédactrice en chef de Vogue, le reconnaît. Melania Trump ne l'intéresse pas. En fait, la First Lady a tout de même eu les honneurs de l'édition mexicaine de Vanity Fair. Sur la photo, elle faisait mine de déguster une rivière de diamants. Pas du meilleur goût. Au même moment, son mari vantait en effet son mur avec le Mexique pour bloquer les migrants en quête d'une vie meilleure.
Oui, c'est un peu difficile. Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. La mode, qui a d'ailleurs perdu hier l'un de ses génies créateurs, Pierre Cardin. Il avait le premier démocratisé le prêt-à-porter à la fin des années 50. Il est mort hier à l'âge de 98 ans.
C'était le journal de Dominique Tenza. Merci Dominique.